J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
Bonjour aux animateurs, chers spectateurs audiophiles, audiopathes, audioformes. Nous sommes donc à ATC, Arrête ton cinéma spécial Philippe K. Dick, dit le maître, en référence à son roman Le maître du haut château. Donc il est né le 16 décembre 1928 à Chicago dans l'Illinois. Bien. Il est mort le 2 mars 1982 à Santa Ana en Californie. Donc c'est un auteur de romans, de nouvelles et d'essais de science-fiction. De son vivant, il a reçu plusieurs prix littéraires, comme le prix Hugo pour Le Maître du Haut-Château et le prix John Wood Campbell Memorial pour Couler mes larmes, dit le policier. Alors qu'il a passé la majeure partie de sa carrière dans une quasi-pauvreté, son apport à la science-fiction est important et certaines de ses œuvres ont été adaptées au cinéma pour devenir des films cultes. Blade Runner, Total Recall, Minority Report, Metal Hurlant, Scanner Darkly et bien d'autres. Philippe et sa sœur jumelle Jane Charlotte naissent de l'union de Dorothy Kindred Dirk et Joseph Edgar Dirk.
Elle est décédée, je crois.
Voilà. Qui travaillent tous les deux au département de l'agriculture et sa mère n'ayant pas assez de lait, Jane meurt quelques semaines plus tard, le 26 janvier 1929. Ce décès affectera Philippe K. Dick tout au long de son existence. Toute sa vie, il sentira qu'une partie de lui-même le manque, ce qui est très probablement à l'origine de la dualité exceptionnelle forte de son œuvre. Assez jeune, il souffre de vertiges et plus tard, on lui diagnostiquera une schizophrénie qui sera réfutée par la suite. Ses parents divorcent et il reste avec sa mère à Berkeley. Philippe s'en plaindra toute sa vie et son père rompt définitivement les liens avec la famille. Donc lui, quand il est jeune, il adore Edgar Poe, Lovecraft, il adore aussi la musique. Il est renvoyé de l'université pour sympathie communiste, parce que le McCarthyisme à l'époque était à son apogée. Il se lance comme programmateur radio et vendeur de disques. C'est au collège qu'il débute sa passion de l'écriture. En 1948, Jeannette Marlin devient sa première épouse. Il divorcera 6 mois plus tard. En 1950, il épouse Cléo Apostolides, militante gauchiste mineure, fichée par le FBI pour communisme. Donc voilà, il est poussé par son épouse, entamé en 1952 une carrière d'écrivain. Ses débuts, hélas, passent inaperçus. Son premier roman, Loterie solaire, très politisé, est publié en 1955. Côté famille, les relations se dégradent. Il supporte très mal que sa femme soit plus active que lui. Et comme lui, il écrit la nuit, il supporte aussi très mal que ses voisins le voient en lui un paresseux qui végète sur la terrasse. Donc il se sent traqué, épié, et pour soutenir son rythme de travail, il prend des médocs et surtout des amphétamines qui le plongent dans des dépressions terribles.
Si j'y vais bien, c'est Jivamine.
Sa parano grandit au fil des mois et il sent qu'il y a un complot contre lui, qu'il ne réussit pas au niveau littéraire, parce qu'en fait, il y a un double effet qui se coule, qui se joue contre lui, puisque à l'époque, la SF n'est plus très à la mode et le style de Dick arrive trop tôt pour le public américain, dont l'humeur est davantage à l'euphorie plutôt que à la suspicion. Ses romans et nouvelles ont atteint par contre un succès en France après 1968 et aux États-Unis dans la foulée du film Blade Runner. Sa situation en attendant s'aggrave, il divorce et rencontre Anne Williams, Rubinstein, jeune veuve. L'union est assez fusionnelle. Les trois filles d'Anne se lient rapidement à ce gros barbu. En naîtra une Laura Archer en 1960. Anne le pousse à écrire une grande œuvre et il débute maître donc du haut château. Une fois de plus, le coup sombre. Anne voit en Dick un écrivain qu'il ne sera pas. Et il ne veut pas, lui, abandonner l'ASF. Elle ouvre une bijouterie et il se sent entretenu et la soupçonne même de vouloir le tuer. Il dit « C'est une psychopathe meurtrière, elle me faisait peur et par deux fois elle a tenté de me tuer ». Lorsque Anne quitte la maison en emmenant sa fille, Dick sombre et le divorce a lieu en 1964. En 1962, donc, il écrit « Le maître du haut château » et qui est un succès. Le public dickénien commence à se créer, il obtient le prix Hugo, qui est un prix très important pour les livres de science-fiction.
Tous les Hugo sont importants.
En 1963-64, il enchaîne les romans « Le clan de la lune alphane »,« Nous sommes les martiens »,« Simulacre » et « Le dieu venu du Centaure », son roman le plus connu. Pour travailler le maximum possible, et ben il absorbe de plus en plus d'amphétamines. En 1964, il se marie avec Nancy Hackett, 21 ans, et en naîtra Isolde Freya, surnommée seulement Isa. De nouveau, le mariage échoue, il ne veut pas faire partie de la bonne société, il veut juste se consacrer à ses livres. L'assassinat de Robert Kennedy et de Martin Luther King le révolte. Il décide de ne plus voter. Durant cette période, il écrit « Des androïdes rêvent-ils de moutons électriques » qui servira de base à Blade Runner. Mais aussi et surtout Ubique, qui sera plus tard vu comme le chef-d'œuvre du maître. En 1970, il est au bout du rouleau. Ennui avec le fisc et sa femme, le contexte mondial, nous sommes en pleine guerre du Vietnam. Il écrit « Couler mes larmes », dit le policier. Nancy et Isa partent en septembre. Dick sombre et ouvre la porte à tous les drogués. C'est là où la maison sera complètement envahie de drogués.
Ce qui est rare chez lui, la drogue.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là qu'il écrira « Substance mort », qui donnera le scénario de « Scanner Dark ». Ensuite, il se fait interner en hôpital psychiatrique. Dick est sans doute paranoïaque et schizophrène, mais il ne présente pas les symptômes du drogué dur. Donc, le 17 novembre 1971, en rentrant chez lui, tout est cassé, volé. Et pour lui, c'est un gros choc. Il accuse le FBI et le KGB et il portera plainte. Sa plainte restera sans suite. Il s'installe à cause de ça à Vancouver. Il tombe plusieurs fois amoureux mais sans succès. Il tente de se suicider en médicaments. Il survit et il se fait interner à Ixley, un centre de désintoxication pour héroïnomanes. Voyant les clients des lieux et de leurs dommages collatéraux, il arrête la drogue tout en continuant quand même à prendre des médocs. C'est son petit côté Dr House sans doute.
C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant.
Vous êtes raide ?
Si on est mardi, je suis raide d'œuf.
En juillet, il fait la rencontre de Tessa Bubsy, qui a 18 ans, et il recommence à écrire. L'Europe et surtout la France s'intéressent à lui. Substance mort se voit publiée. La version finale de Couler mes larmes, dit le policier, est nommée en 1974 pour le prix Nebula et le prix Hugo.
Ouais.
On lui propose d'adapter Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques en film. Ayant tellement absorbé de drogue avec des flashbacks d'acide, avec des pulsions incontrôlables, Dick verse logiquement dans le mystique, qui lui avait toujours prouvé que notre monde était faux, qu'il existait une réalité supérieure que lui seul pouvait apercevoir. Et c'est ainsi qu'il explique à une foule ébahie en 1977 à Metz, lors d'une conférence SF, qu'il est en contact avec des extraterrestres.
C'est cela, oui.
Force et honneur, et depuis 1974, et qui correspond avec eux.
L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir.
Voilà. La Pantos. Non, ça me rappelle un peu Raël. Et il écrit cette période-là, l'Exège, énorme ouvrage, plus de 8000 pages, date de cette époque. Il s'agit d'un essai où toutes ces révélations sont soigneusement notées, où s'affrontent Philip K. Dick et Horse Lover, fait unique et même personnage. Parce que Philip signifie en grec l'ami des chevaux, Horse Lover en anglais, et Dick signifie en allemand gros, donc fait en anglais. Il a un accident vasculaire cérébral le 18 février 1982 et meurt le 2 mars 1981 d'une défaillance cardiaque quelques jours avant la sortie de Blade Runner. Il commençait juste à recevoir les droits d'auteur. Il est enterré à Fort Morgan, au Colorado, aux côtés de sa sœur Jane, sans avoir jamais su à quel point son œuvre allait devenir mythique. Il a publié 36 romans et 5 recueils de nouvelles. En 1983, à un an après sa mort, le prix littéraire est créé en son hommage et baptisé le prix Mémorial Philip K. Dick. Nombre des histoires de Dick ont pour thème la modification ou la manipulation de la réalité. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, jeux de guerre, souvenirs à vendre, la vérité avant-dernière, Dieu venu du Centaure, le maître du haut château et Ubique. Beaucoup croient que cela venait de son absorption quotidienne d'amphétamines. Mais la critique sociale et le cynisme des puissants qu'impose une réalité fictive sont aussi très présents chez lui. Ce sont des œuvres sombres inspirant le cyberpunk qu'il n'a jamais pu connaître.
Ah, c'est bon, ça.
Voilà. Cette atmosphère glauque tient en fait à l'intrigue héritée du gnosisme. Gnocchisme. Oui, du gnocchisme.
L'odeur de pâte.
De pâte à la patate.
Oui.
Donc, c'est un mouvement religieux regroupant des doctrines variées du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient qui se caractérise généralement par la croyance que les hommes sont des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel créé par un dieu mauvais ou imparfait, appelé le Dimurge, et qui hante la plupart des romans de Dick. Le faux qui régit ce monde et ce que nous percevons comme le vrai doit être démasqué. Le style dickien n'a rien de flamboyant, de même que la profondeur de l'analyse psychologique n'est pas sa première force. Dick est avant tout un auteur d'idées, et c'est probablement pour cela que ses nouvelles et romans ont été autant adaptés au cinéma ou inspirés d'autres écrivains comme Ursula Le Guin. Il est l'inspirateur du mouvement cyberpunk.
Parce que non, ça a l'air d'être un personnage assez complexe, hein, je trouve, à travers ses films. Et je trouve
on va faire un peu sur le film, et puis je pense aussi qu'il y aura peut-être un peu après tout son apport, parce qu'il y a d'autres films qui sont vraiment dans la même veine, Blade Runner. Mais moi, j'avais pas beaucoup aimé autant le roman, quoi, parce que déjà, ça n'a pas grand-chose à voir avec le
film.
Le
film est grandiose.
Le film est grandiose, par contre. Blade Runner, donc 1982, de Ridley Scott. D'ailleurs, on fera un petit hommage à son frère, hein, Tony, qui apparemment suicide. Il y a des oui-dire comme quoi il était condamné. Non, il était condamné parce que à cause d'un cancer cérébral. Mais apparemment, le coroner a dit qu'il n'en était pas qu'il est, enfin.
Ah, mais tu t'es direct, tu reviens de Los Angeles?
Ouais, je reviens de Los Angeles et m'ont dit le coroner, il a dit no cancer et
donc
tout.
Donc c'était le monsieur qui a réalisé
Top Gun.
Bravo.
Un jour de tonnerre. Hein.
Ouais.
Tu voulais dire quelque chose un petit peu sur.
Sur Blade Runner. Alors c'est un film de Ridley Scott, comme a dit Monsieur Gwen, avec Harrison Ford. C'était son premier film?
Ben non, puisqu'il sortait de...
De la trilogie.
De la trilogie des Gardes des Étoiles.
C'est bien, je pense que tu suivais.
Non.
Suivant, Sun Young.
Shin Young, oui, c'est celle qui joue Rachel et qu'on retrouve aussi dans le film Dune, qui joue la femme de Paul Maudib, Shani.
Voilà, Rachel qui sauve la vie à René Descartes.
Mais pas René Descartes.
À Rick Descartes.
Rick Descartes, oui. Bon, d'ailleurs, on en reviendra là-dessus.
Et donc, ton cher collègue aussi.
Rutger Hauer, Roy Beatty. Voilà.
Donc, Los Angeles 2019.
D'ailleurs, oui, ça fait...
San Francisco, non?
Dans le roman, c'était San Francisco, ouais. Et par contre, c'était en 92, hein, je crois.
Alors, dans les dernières années du XXe siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à la conquête de l'espace.
Oui, parce qu'on voit des publicités pendant le film.
Oui, alors ça aussi, c'est un grand sujet. Fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour. Les...
Réplicants.
Bien. Des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être humain.
Ouais.
Mais suite à une révolte, ces derniers sont peu à peu retirés.
Pour être plus exact, c'est qu'ils se sont révoltés et qu'ils ont été interdits de se promener sur Terre.
Oui.
Donc voilà.
Oui.
Et après, on les retire si jamais ils se présentent.
Oui. Quatre d'entre eux parviennent cependant à s'échapper et à s'introduire. Ça te plaît? Chargé de les exécuter, le détective privé.
Descartes?
Rick.
Rick Deckard, pas Rick Hunter.
Oui, se lance à leur recherche. Donc c'est un ancien Blade Runner, lui.
Oui, tout à fait, qui est à la retraite, alors que dans le roman, il est...
Pas du tout ça.
Ah non, du tout, il est en pleine action. Enfin, il est à la 50.
D'accord. Donc Blade Runner, c'est quand même une unité spéciale de la police.
En fait, il y a donc ces fameux réplicants, donc Roy Beatty, qui est joué par Rutger Hauer.
Si on peut parler, on peut commencer déjà par une atmosphère oppressante.
Tout à fait, oui, mais
parce
c'est
que
dans
le film est super noir, en fait. Je dirais, d'ailleurs, c'est un film d'anticipation, ou pas?
On dirait... Dystopique. Mais ça, j'expliquerai plus tard ce que c'est que le dystopique.
Oui, parce qu'on en parle tout le temps, c'est un truc utopie, c'est une contre-utopie.
C'est une contre-utopie, voilà, tu as reçu un prix, Hugo.
Merci.
Voilà. Je trouve que ça fait aussi penser au film Matrix, ce côté très très sombre, avec la pluie omniprésente.
Oui.
Et puis il y a.
L'atmosphère, je dirais, de la planète en elle-même.
Oui, et puis
pardon.
Comme eux, Ridley Scott a choisi plus Los Angeles, c'est vrai qu'il a mis toute une atmosphère très années 40, puisque c'est vrai que Rachel a des coiffures ou même un style très années 40, même l'appartement de Descartes avec des vieilles images en noir et blanc est très années 40. D'ailleurs, Descartes, tu le vois, le fameux polar des années 40.
Avec son impair pourri,
voilà,
son alcoolisme.
Voilà, c'est ça. Et puis
sa vie, je trouve qu'un...
Voilà, c'est ça.
En fait, on
se retrouve effectivement dans cette ville qui est chère à l'image de Chandler, Chandler, l'écrivain, qui est quand même connu pour les policiers de ces années-là, et surtout de James Ellroy, qu'on connaît aussi par le biais de L.A. Confidential et du Dahlia Noir.
Donc pour rebondir là sur l'allusion que tu as fait avec Matrix, donc moi je pense que il s'agit d'un des films références du mouvement cyberpunk, que ce soit Matrix, comme tu as dit, la Blade Runner et Ghost in the Shell.
Ouais, tout à fait.
Bon, c'est bien, tu es d'accord, on a avancé. Tu voulais rajouter sur l'œil dans ce film ? Alors, l'œil, c'est le miroir de l'âme.
Voilà, c'est bien le père Fouras.
Alors, si tu ne trouves pas, tu passes par la fenêtre chercher la clé en bas. C'est pas une histoire avec les réplicants, là, vis-à-vis de son œil, tu sais, qui se...
C'est l'œil de Dieu.
Ah oui.
Parce que
le symbolisme religieux.
Le symbolisme, et puis l'immeuble de la Tyrell Corporation qui ressemble à une pyramide. Et c'est ce qu'on voit sur les billets de banque des États-Unis. C'est ce fameux œil sur cette pyramide, le professeur Tyrell, qui a créé les réplicants. Donc, Dieu le Père, en disant que ces réplicants sont ses enfants prodiges. Il y a aussi, je reviens pour le côté religieux, c'est que la fameuse danseuse Zora se sert d'un serpent. Le fameux serpent de la tentation d'Adam et Ève. En plus, elle est rousse, je me rappelle bien. Et il y a les fameux stigmates de Roy à la fin du film. Et sa mort, et quand il meurt, son âme s'envole comme une colombe.
Pourquoi ils servaient en fait, là, les réplicants ?
Les réplicants étaient surtout utilisés pour remplacer les êtres humains dans des activités qui étaient difficiles pour les humains de base. C'est-à-dire que ce soit Roy, Betty ou Léon, le gros là qu'on voit au début du film, Léon lui était utilisé pour sa force. Roy, Betty était militaire. Pris, donc la copine de Roy, elle était objet de plaisir et aussi militaire. Et Zora était une danseuse érotique.
Et donc, on peut dire, est-ce que c'est un film qui est misogyne, Gwen ?
Pas du tout, parce que en fait, quelque part, Ridley Scott a mis en avant la condition, malheureusement, des femmes. Et d'ailleurs, on le verra aussi, et c'est là où je rebondis bien, dans le film, Thelma et Louise, puisque effectivement, elles sont victimes et qu'il n'y a pas d'autre choix que de mourir. Mais c'est pas que ce soit misogyne, c'est que la société était telle qu'elle. Oui, parce qu'il y avait toute cette histoire aussi d'animaux, c'est-à-dire que... Pris est pris comme un raton laveur avec son maquillage. Comment ça s'appelle ? Il y a l'araignée, le souvenir de l'araignée pour Rachel. Zora, le serpent. Léon, la tortue, puisqu'on l'interroge sur cette fameuse tortue. Roy, Betty, c'est le loup.
Et le chef de meute, quoi.
Voilà, c'est ça. Et Descartes, au début, c'est le coq, et après, c'est la licorne. La fameuse, les petits origamis que laisse gaffe.
Pourquoi la licorne ?
La licorne, ça a toujours été un gros problématique, parce qu'en fait, il y a eu quand même 7 versions de Blade Runner, et il y a cette fameuse passage de la licorne pendant qu'un moment il rêve. Alors, ça, c'est le côté onirique, effectivement, parce qu'on est quand même effectivement dans une ville glauque. Il n'y a qu'à la fin du film où on voit le soleil quand même. Hein. Et c'est juste un moment, au moment où il y a fameux soleil, c'est à ce moment-là que Descartes demande à ce qu'on fasse baisser la vitre pour interroger Rachel, dans le fameux test de Voigt-Kampff. C'est un test qui marche sur la respiration, sur le rythme cardiaque, la tension du muscle interne de l'œil, la dilatation de la pupille, la dilatation capillaire dans la région faciale qui peut amener un rougissement et aussi le dégagement de phéromones.
Il y a aussi ce qu'on appelle l'eugénisme.
L'eugénisme ?
En particulier le clonage et la génétique, donc science dans laquelle l'homme a grandement avancé, ce qui a donné la capacité de créer des humanoïdes parfaits, ni robots, ni clones, ni même vraiment humains. Ça fait penser un peu à AI, tu sais, le film Intelligence Artificielle.
Voilà, c'est ça. Je dirais même, c'est même plus des robots, c'est carrément des cyborgs. Hein, ce qui n'est pas sans rappeler le fameux Terminator. Hein. Moi, surtout, ce film, quand même, il a quand même marché grâce...
Enfin, marché, c'est un bien grand...
Non, il a pas eu un gros succès au box-office. Par contre, c'est devenu un film culte, quoi. Ça, c'est des films qui vivent après leur époque, quoi. Et c'est surtout grâce à la musique de Vangelis...
Oui, aussi.
Qui sortait quand même des chariots de feu et qui a été aidé par un certain Demis Roussos.
Oui,
parce qu'il faisait partie du fameux groupe Les Aphrodite Childs.
Est-ce que c'est les parents ou Destiny Child ? Non.
Non, mais c'est vrai que c'est devenu franchement un film culte et qui a été le début aussi de tout ce qu'on connaît des films issus de la littérature de Dick. Donc après, on va passer un peu parce qu'on en a quand même plusieurs, même s'il n'y en a pas fait des milliers des cents à la Cabrol. Bah oui, c'était pour faire un petit clin d'œil à mon prix. Ah oui, à mon prix Hugo. Voilà, alors en 90, il y a Total Recall, fameux Paul Verhoeven qui fera plus tard Basic Instinct et puis Starship Trooper.
Chef-d'œuvre là aussi, hein, le premier. Ouais,
chef-d'œuvre aussi. Et qui est, en fait, Total Recall est issu de la nouvelle de Souvenir à vendre. Donc, tu veux que je fasse le synopsis?
Ouais, vas-y, fais ton Total Recall.
Voilà. Mars est colonisé et exploité pour le Tiribinium. Enfoui dans le sous-sol, la planète est tyranniquement administrée par Vilos Coagan,
oui.
qui est joué par Ronnie Cox. Et Douglas Quaid, lui, mène une vie tranquille sur Terre avec sa femme, mais il est obsédé par un rêve sur Mars. Il s'intéresse à Recall, une société qui lui propose des implants de souvenirs factices. Donc forcément, quand il va les voir, il choisit Mars, mais peu après son sommeil, les employés de Recall sont face à un Quaid hystérique qui leur parle d'agents infiltrés. On croit qu'il rêve, mais l'opération n'a pas encore eu lieu. On l'endort et on le renvoie chez lui. Et c'est là que le film
diffère
du roman, puisque le roman reste sur Terre, alors que la grosse partie du film se passe sur Mars. Ouais. Parce qu'en fait, quand Quaid, qui ne comprend plus rien, et va expliquer ça à ses camarades qu'il a été voir chez Recall, tous ses camarades décident de le tuer, et lui s'en débarrasse très aisément. Donc il va chez lui pour expliquer ça à sa femme. Sa femme lui saute dessus, Sharon Stone, et qui lui demande d'ailleurs même le divorce. Donc voilà, et il s'échappe de peu, parce qu'il y a le fameux Michael Ironside qu'on avait connu dans la série V, voilà, et qui est un sacré personnage, et qu'on voit aussi dans un des Highlanders, je me rappelle plus, l'un des pires d'ailleurs. Je
fais aussi des épisodes dans l'Agence Touriste. Il a souvent été dans les années 80-90.
Ouais, c'est vrai que c'est. Faut dire qu'il a quand même
un méchant, ouais, un physique.
Il a un physique quand même. Donc c'est vrai que là, il y a une chasse poursuite.
Une course poursuite. Elle est bien celle-ci.
Merci. Parce que Quaid se retrouve sur Mars et effectivement, là, il essaye de rencontrer la rébellion. Aussi, c'est grâce à une mallette du Quaid apprend qu'il s'appelle Hauser et qu'il est travaillé pour Coagan et qu'il aide la résistance contre justement.
On voit qu'il se mâche une grosse machine dans le pif.
Voilà, c'est ça. Oui, et puis il y a la fameuse tête aussi qui se divise et qui explose.
C'était bien fait quand même.
Ouais, non, mais c'était bien fait. Hein. À un moment, il y a une tentative aussi de lui faire croire que en fait, tout ça n'est qu'un rêve et qu'on est là pour lui administrer une petite aiguille. Puis là, il rencontre cette fameuse Mélina. Il y a une grosse différence entre le roman et le film, c'est qu'effectivement, comme on disait, tout se passe sur Terre dans le roman. Il n'y a pas une histoire d'extraterrestre. Mmh. Bon, après, il y a effectivement l'histoire de révolte et de zone.
Le roman, c'est quand même un roman de science-fiction.
Oui. Oui, bien sûr, il y a toujours les histoires de Recall. Mais en fait, et puis l'épouse s'appelle Kristen dans le roman et pas Laurie. La positive attitude. Donc voilà.
Et sort un album pour Charmant.
Oui, d'ailleurs, je vois que monsieur est...
Ouais, parce que tu en parles alors. Voilà, je rebondis.
Voilà, c'est oui, c'est bien. Nous, moi, j'avais parlé effectivement de ce sujet puisque de Philip K. Dick, puisque effectivement, là, dans ce mois, va sortir le Total Recall Mémoire Programmée, qui est davantage une réadaptation de la nouvelle de Philip K. Dick qu'un remake. Parce que en fait, le personnage de Richter, joué par Michael Ironside, va être couplé à Laurie. Donc en fait, il y aura un seul rôle pour les deux. Je veux dire, c'est elle qui va le poursuivre tout le temps. Voilà, elle va décider.
Ah, tu veux dire le rôle de Sharon Stone qu'il y avait ?
Ouais, et qui va être joué par Kate Beckinsale.
Ah, elle veut le tuer tout le temps, alors.
Voilà, et c'est Colin Farrell qui jouera le fameux Douglas Quaid.
Et Jessica Biel.
Et qui jouera la fameuse Mélina. Alors, ce qui est très quand même marrant, parce que ce film qui est donc fait par Len Wiseman, le fameux Underworld, tu sais, le mari de Kate Beckinsale. Oh, putain, c'est pas lourd, ça, cette histoire, quand même.
Ah, oui.
Et ouais, ça, c'est bon d'avoir un époux qui réalise. Hein.
Oui, ils sont une grande famille, hein.
Et oui, c'est ça qui est quand même beau dans ce fameux cinéma. Moi, j'avais pas aimé enfin, c'est pas que j'avais pas aimé, mais c'est vrai qu'Arnold Schwarzenegger, bon, c'est vrai que c'était ses années, hein. Il était en plein succès, Terminator et compagnie, L'Aube du sixième jour, et ainsi de suite. C'est vrai qu'il avait pas été super fantastique, celui-là. Il est pas transcendant. Et les fans de Dick avaient trouvé ça trop violent par rapport à l'œuvre de Dick, ouais.
Et tant d'ailleurs, le scénario se tenait.
Voilà. Et d'ailleurs, je crois que le premier scénario, le premier réalisateur qui a eu le scénario en main, c'est David Cronenberg.
D'accord.
Donc voilà. Ensuite, en 92, Confession d'un barjot de Jérôme Boivin, dont le scénario est de Jacques Audiard et Jérôme Boivin. Donc le fameux Jacques Audiard dont on a parlé il y a quelques semaines de cela avec Marion.
C'est qui?
Marion Cotillard.
Ah bon,
cher Edos.
Marion, j'étais en train de chercher, tiens, c'est quelqu'un, j'étais pas là.
Mais oui.
J'ai invité quelqu'un, j'étais pas là.
Bah oui, j'ai invité Marion, elle m'a commencé à me parler. Bon, bah après. Tu veux nous parler un petit peu du Barjot, puisque c'est.
Oui, j'aimerais bien parler quand même, merci.
Non, mais c'est très curieux, parce que c'est quand même un film français, quoi.
Oui, Pourquoi curieux?
Parce que d'habitude, la science-fiction, c'est plus américain.
Non, il y a eu le prix du danger aussi, je te rappelle.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais on brille pas. La France ne brille pas par son cinéma de science-fiction.
Donc, Barjo, c'est le nom du monsieur, est un excentrique, naïf et simple d'esprit. Après avoir accidentellement brûlé sa maison durant une expérience scientifique, il est hébergé par sa sœur jumelle, Fanfan.
Voilà, qui est joué par Anne Brochet, qui joue Roxane dans Cyrano de Bergerac.
Et son beau-frère Charles.
Richard Boringer.
Et donc l'acteur est joué par Hippolyte Girardot. Ouais, dans sa nouvelle maison, Barjo continue à collectionner les vieux...
Romans ?
Non, magazines scientifiques, à tester ses inventions étranges et à noter sur ses carnets toutes les observations qu'il fait de la nature humaine et de ses pensées sur la fin du monde. Donc c'est fidèle au roman malgré la transposition de l'action en France.
Mmh.
Le film comporte quelques hommages à Kadic, notamment la gémélité.
Gémélité, oui, de Barjo et de Fang.
Oui.
Donc puisque ça a rapport à la fameuse Jane, la sœur.
Oui,
de,
le décès, donc la sœur jumelle de Dick.
Ensuite, effectivement, comme disait Hugo, ensuite il y a Planète Hurlante en 1995 de Christian Dugoué. Et c'est un film canado-américano-japonais.
Il s'inspire d'une nouvelle de Kadic, Nouveau modèle.
Mm-hmm.
Second Variety.
Ouais, bien. Tu causes bien l'anglais, toi.
Yeah. Nous sommes en 78 sur une colonie minière.
Oui, enfin en 2078. Hein.
Pardon, oui. Sur une colonie minière de la planète Sirius 6b. La guerre fait rage entre le NBA, nouveau bloc économique.
Ouais. NBE.
NBE.
La NBA, c'est la main au panier là-bas.
Contre la révolte des mineurs qui s'est constituée après que des radiations ont été détectées dans les mines de beryllium. Disant que le NBE, en représailles contre la révolte des mineurs, a largué ses bombes atomiques, c'est gentil, c'est sympa, sur la population entre l'Alliance et le NBE, c'est maintenant le statu quo depuis 2 ans. Donc, qu'est-ce que l'Alliance ?
L'Alliance, enfin, en fait, c'est l'Alliance des mineurs.
Non, l'Alliance, c'est aussi les scientifiques qui se sont aperçus que le beryllium dégageait des radiations.
Qui ont créé les hurleurs ou screamers, épées mobiles.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'un screamer ?
Alors, ou épée mobile. Ça n'a rien à voir avec le play mobile.
Ouais.
Merci. C'est en fait une machine autonome capable de détruire toute forme de vie qu'elle attaque avec des scies circulaires, c'est sympa ça, dont elle est équipée.
C'est la scie chien fidèle ?
Oui. Celles-ci produisent un son apparent, un hurlement strident, et ce qui décontenance les humains avant que la machine ne les tue. Donc ça détecte les humains grâce à leur pulsation cardiaque. Donc les membres de l'Alliance s'en protègent grâce à un bracelet qui réémet ses pulsations en déphasé. Comprendra qui peut.
Et leur production est entièrement automatique.
Jacques Delors, oui, automatique.
Automatique,
oui, ils se sont même barrés après.
Et après, ils se sont barrés, et surtout que ces robots évoluent.
Donc, Delors, tout n'est question de survie. Donc, les premiers rulers se sont détachés de leur concepteur et ont cédé la place à de nouvelles versions plus insidieuse, oui. Plus meurtrière, ce qui ne fait aucune différence entre les antagonistes. Leur unique but, exterminer toutes les formes de vie humaine.
Le problème avec ce film, c'est qu'il n'a pas eu un super gros budget. Et effectivement, il a souvent été décrié. C'est vrai que ce n'est pas un film très très connu de l'œuvre de Philippe K. Dick. Oui.
Néanmoins, la tension et la bizarrerie du monde imaginé par K. Dick sont très bien rendues. Le film a fait l'objet d'une suite qui s'appelle Screamers, The Hunting. La chasse. Donc, on ne peut pas dire que c'était une grande suite. Je dirais même que ça a été proche d'une... Enfin, pas proche du navet, mais même s'ils ont gardé les effets spéciaux qui sont bien, et après le reste, les dialogues sont pourris, quoi. Après, je crois que j'avais même eu un 3, donc c'est pour dire. Je dois...
Non.
Si, ça doit être de pire en pire, quoi.
Puis, après, il y a eu le fameux...
Imposter.
Et par contre, alors, ça, c'est vrai que les Français ne doivent pas beaucoup le connaître parce qu'il n'est jamais sorti en France, celui-là. Que de Gary Flender et avec Gary Sisney, qu'on connaît grâce à la série Expert de Manhattan, et Madeleine Stowe, qui joue son épouse dans le film. Donc, tu nous fais le synopsis, mon cher Igot.
Nous sommes en 2075. Les extraterrestres d'Alpha, du Centaure ou Centaurien, essaye d'envahir la planète depuis plus d'une décennie. Spencer Oram est à la tête d'un programme gouvernemental secret visant à la création d'une arme permettant l'anéantissement final des Centauriens. C'est vraiment toujours de l'amour. Ses travaux touchent à leur fin, mais le major Attaway le fait soudainement arrêter pour haute trahison. Spencer Oram est soupçonné d'être un réplicant à la solde des Centauriens. Il arrive toutefois à s'enfuir, mais il ne sait plus à qui il peut faire confiance, comme Gwen. Sa femme, qui travaille dans un des grands hôpitaux militaires, doit pouvoir l'aider à prouver qu'il est vraiment humain. Mais cette preuve convaincra-t-elle les autorités ? Qui Spencer Holam cherche-t-il à convaincre de son humanité ? Les autorités ou lui-même ?
Mais ça c'est un truc de, très fort chez Dick, c'est effectivement cette histoire de réalité. C'est-à-dire que même le personnage, puisqu'on le voit dans Total Recall, à un moment, est-ce qu'il rêve, est-ce qu'il rêve pas ? Et c'est vrai que là, dans celui-là, est-ce qu'il est un agent, est-ce qu'il n'est pas un agent des Centauriens ? Plus, il met en scène une société totalitaire, qui est souvent le cas dans l'œuvre de Philip K. Dick. Le système de justice semble quelque peu inexistant. Le héros est condamné sans procès et à des tortures dignes du Moyen-Âge, tout comme la ville où se déroule l'action, où la haute société vit à l'abri du fameux bouclier et que les indigents vivent en dehors dans des conditions sanitaires déplorables. Et Impostor est l'exemple typique de l'antagonisme hollywoodien qui montre un futur qui semble toujours idéal, mais qui dévoile en réalité une constante temporelle de non-progrès, voire de régression sociale et surtout libertaire. Et là aussi, parce qu'à un moment, le héros Spencer s'échappe et il va aller dans une zone où sont enfermés la racaille, comme on le voit dans Total Recall. Et il y a aussi ces centauriens qui ne sont pas sans rappeler les fameux réplicants de Blade Runner. Moi, je dirais que ce n'est pas une grosse œuvre. Ouais, je l'ai vu celui-là. Il m'a pas laissé de grands souvenirs par rapport à d'autres. C'est vrai que moi je dirais que c'est un mineur. C'est moins pire que Planète Hurlante, mais c'est quand même pas. C'est Minority Report ou du Blade Runner.
Pas le même budget.
Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est juste que voilà, après, Pedro Almodovar avait commencé avec des petits budgets, il a quand même fait des super films. Alors ensuite, effectivement, on arrive à cette fameuse Minority Report, voilà.
Oui, le chef-d'œuvre,
voilà.
Et
d'ailleurs, parce que Tom Cruise était tombé amoureux de la nouvelle et il a convié Steven Spielberg à le réaliser. Donc, d'ailleurs, ça a été le début de leur relation, puisqu'ils ont joué quand même la guerre du monde. Et Tom a fait les fameuses cascades, fort de son expérience de Mission Impossible 1 et 2. Bon.
Steven est donc sorti sur les écrans en 2002, comme tu as dit, c'est une réalisation cinématographique de la nouvelle éponyme de K. Dick.
Le rapport minoritaire, ouais, tout à fait. Ça, il faudrait expliquer.
Minority Report place le spectateur dans un futur proche, cyberpunk, une dystopie. Alors, dans le cadre est le Washington de 2054, où les êtres humains mutants, les précogs, peuvent prédire des crimes à venir grâce à leur don de préscience. Tu veux dire quelque chose ?
Non, oui, parce qu'en fait, dans le roman, c'était à New York.
D'accord, encore New York.
Toujours et encore, voilà.
Donc, les agents du pré-crime, dont John Anderton, reçoit des précogs une vision le concernant. Dans moins de 36 heures, il aura assassiné un homme qu'il ne connaît pas encore et pour une raison qu'il ignore. Choqué, il prend
la fuite,
poursuivi par ses propres collègues qui ont pour mission de l'arrêter donc conformément au système.
Voilà, et en même temps, il est suivi par un agent du gouvernement qui est joué par Colin Farrell. L'histoire de ce film, c'est surtout que ces fameux trois précoques, il se peut que des fois, il y ait un de ces entités qui n'ait même la même vision que les autres. En fait, l'ordinateur qui s'occupe de tout ça l'ignore, mais elle reste quand même dans les ordinateurs. Et c'est ça qu'on appelle le fameux rapport minoritaire. C'est justement ça que va devoir chercher Tom Cruise, et c'est là qu'il va apprendre que cet homme qu'il cherche, Leo Crow, serait quelque part l'assassin du fils de John, la plus puissante des précons. Elle s'appelle Agatha pour Agatha Christie, Danish pour Danish Hammett, qui est un écrivain, et puis Arthur pour Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Et en fait, cette Agatha va obliger Tom Cruise à ne pas tuer, mais juste à l'arrêter. Et en fait, Leo Crow, lui, dit à Tom qu'il faut qu'il l'oblige à le tuer. Comme ça, sa famille recevra de l'argent. Et donc, il se suicide avec l'arme de Tom. C'est comme ça que l'autre saura qu'effectivement, il y a une conspiration derrière. Là, il y a une grosse différence avec le roman. C'est-à-dire que là, dans ce film, les précons sont assez intelligents, sont assez beaux.
Pas que ce soit la beauté le critère.
Oui, non, mais ils sont pas moches non plus. Pour les policiers de la pré-crime, carrément déifiés. Alors que dans le roman,
ils ont même pas ce nom-là, je crois, dans le roman.
Parce qu'en fait, ils font partie du gouvernement et puis ils sont pas dans un truc de police. Et c'est surtout que, en fait, les trois entités, ils ont carrément des retards mentaux et ils balbutient. Et c'est en tentant de transcrire leur balbutiement qu'on voilà et qu'ils sont carrément rejetés par la société. Pas vraiment dans le même trip et tout.
enjolivé la chose.
Voilà, ils ont enjolivé le truc. Et aussi, ce qu'il faudra aussi raconter, c'est que Steven Spielberg avait repris le film I Am Intelligent qui avait été fait à l'origine par Stanley Kubrick. Que, évidemment, Tom Cruise aussi sort de I Watch Shot. Oui. Et donc, c'est vrai que le personnage de Max von Sydow, Lamar Burgess, comme Anthony Burgess, qui est l'auteur de Orange Mécanique, et John Anderton, donc le personnage de Tom Cruise, adore la musique classique et s'adonne à la drogue, comme Alex Delarge, le personnage d'Orange Mécanique, et lors de ses opérations des yeux, puisque là, on lui change carrément les yeux, alors que dans le roman, il change juste ses papiers, c'est tout. Et il est maintenu par des attaches très proches de celles utilisées par Alex. Et la séquence d'ouverture est un hommage à Hitchcock, les lunettes pour l'inconnu de l'Orient Express, les ciseaux pour le crime étaient presque parfait et le long plan sur l'œil ainsi que la présence de la baignoire et la façon de tuer qui ne sont pas sans rappeler le fameux Nathan Bates de Psychose. Et en fait, et puis là aussi, la victime prédite d'Anderton est le général Léopold Kaplan, opposant au projet donc, de pré-crime, et Anderton le tue pour éviter la chute.
Le système ne marchait que sur une ville. Voilà, alors que là, il doit passer au niveau national. Ce film soulève plusieurs questions, notamment la question du libre-arbitre face au déterminisme.
Tout à fait. Le futur est-il écrit ou le libre-arbitre, les choix peuvent-ils se modifier? Alors, en même temps, techniquement un peu oui, puisque Agatha dit à John que dès qu'il connaît son futur, il peut le changer.
Ouais.
Et c'est aussi un remarque, puisque là, ça se passait à Washington, mais que logiquement, dans le roman, c'était à New York. Ça aussi faisait penser à la fameuse... ça, c'est un magazine qui avait dit que ce film n'était pas sans rappeler la fameuse tolérance zéro de l'ère post-Giuliani, le fameux maire de New York.
Oui, oui.
Donc voilà. Mais c'est vrai que celui-là, alors tu vois, ça a été un gros, gros succès.
Par contre, c'est un film d'anticipation.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est surtout aussi le Steven Spielberg, qui n'est quand même pas un inconnu, Tom Cruise, tous ces trucs de cascade, que là aussi, les Dickiens avaient un peu tiqué sur ce côté un peu trop d'action, quoi.
Oui, donc d'un point de vue stylistique, on peut penser que Minority Report peut faire donc penser à le film que je parlais tout à l'heure, là, AI, Intelligence Artificielle, précédent film donc de Spielberg. Le film est volontairement suréclairé et durant la post-production, un traitement sans blanchiment a été utilisé. Cela donne un film un aspect particulier avec des couleurs vraiment désaturées. On dirait presque un film en noir et blanc, donc les ombres sont très marquées. Donc, il y a eu 481 plans d'effets spéciaux, ce qui en fait un des films les plus complexes de Spielberg. On lui prête pourtant parfois, malgré une apparence froide, futuriste, se retrouver dans ce qu'on appellerait le rétro-futurisme.
Tout à fait.
Avec toutes ces couleurs utilisées. Donc, selon Spielberg lui-même, la musique renvoie aux films noirs de l'époque, style Humphrey Bogart et John Huston.
On saute à Paycheck.
Ouais, j'aime. À pied joie, pas à pied.
Oui, et puis, donc Paycheck, un film avec Ben Affleck, Aaron Eckhart, le fameux double face de Batman, Uma Thurman, Kill Bill, qui est issu de l'œuvre La clause du salaire. Donc un rapide synopsisme.
Ouais, vas-y.
Alors Michael Jenkins.
Tu as dit que c'était un film de John Woo.
Non, j'ai pas dit. Voilà, donc Michael Jenkins est un ingénieur spécialisé de la rétro-ingénierie qui travaille sur des dossiers confidentiels et des technologies de pointe. Par contre, sa mémoire est effacée après chaque mission. Il oublie tout ce qui s'est passé durant ce laps de temps. Il accepte un contrat de 3 ans qui devrait lui permettre de se retirer. Mais une fois sa mémoire effacée, il découvre qu'il a renoncé à l'argent en échange d'une enveloppe contenant des objets dérisoires et que le FBI est à ses trousses, ainsi que des tueurs privés. En cavale, il va essayer de reconstruire le puzzle de 3 ans écoulé. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé celui-là parce que c'est vrai que dans l'œuvre de tous les films qu'on a, il me semble que c'est un des plus légers. Voilà, il est, je dirais, assez comique. Alors je sais pas si c'est John Woo qui a décidé de le faire plus comique n'est l'œuvre de Philip K. Dick, mais c'est vrai que cette histoire, bon, en plus il y a une histoire d'amour au milieu, ce qui est quand même assez, je dirais, pas rare dans l'œuvre de Philip K. Dick, vu son expérience personnelle. Et moi je trouve qu'il est très très bien fait celui-là. Mais c'est vrai que c'est une autre facture, quoi. On est loin du Total Recall, du Blade Runner, quoi. Voilà, et ensuite, on tombe sur le fameux film A Scanner Darkly, qui est issu du fameux Substance Mort, hein, le roman, et qui a donc, en fait, a une touche assez curieuse, parce qu'après avoir été filmé, le film a subi des retouches artistiques en transformant les images en dessin, ce qu'on appelle donc la
Robotoscopie.
Non, la rotoscopie.
Ah, la rotoscopie.
Alors, ils vont pas transformer en robot à la rotoscopie. Vraiment, une autre image, puisqu'on on voit dans ce film Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Iron Man, Woody Allenson, qu'on voyait dans Larry Flint, Tueur Né, et dans No Country for Old Men, et Winona Ryder. Donc, tu nous fais le synopsis.
Dans une Amérique futuriste fascinante, où tout le monde surveille tout le monde, je me rappelle quelqu'un, au nom de la lutte contre la drogue, tiens donc, Fred,
Keanu Reeves,
merci, un agent des stupes dont nul ne connaît l'apparence, dissimulé grâce à un complet brouillé, cherche à remonter la trace d'une bande de dealers. De son côté, l'éponge se shoot à la substance D, la drogue qui crame le cerveau en compagnie de ses amis zoneurs. En réalité, Fred et Bob ne font qu'un, et lorsque le supérieur de Fred lui enjoint de surveiller Bob, soupçonné d'être le principal dealer de substances D, la situation devient franchement intenable.
Voilà, on est en plein parano et schizophrénique.
Qu'a dit lui-même ?
Mais c'était à cette époque-là où il y avait noir de drogué chez lui, et puis c'est pas sans rappeler le fameux Las Vegas parano de Terry Gilliam. Et c'est vrai que moi, il y a ce côté-là où à un moment, ils sont en train de discuter, là, parce que Robert Downey Jr. débarque avec un vélo et puis il est là et il m'a dit c'est une 18 vitesses et tout. L'autre il dit mais attends, 18 vitesses, moi j'en vois 3, j'en vois 6, non il y en a 9 là. Non mais mon dieu, mais en fait c'est des Roumains qui ont récupéré le vélo. Les romans de Steinbeck aussi, un peu ce Tortilla Flat, tous ces mecs où en fait il n'y a pas vraiment d'histoire, où les mecs partent dans des délires grâce à des substances, voilà. Alors c'est vrai que celui-là il est assez curieux, moi je dirais ça vaut la peine de le voir celui-là. Et ensuite, il y a le fameux Next de Litoa Tomaori, celui qui avait fait L'âme des guerriers et meurt un autre jour. On en avait déjà parlé de lui. Et en fait, ce film a de nombreuses références au docteur Folamour de Kubrick. Et pas Kubnik. Hein. Rien à voir.
Ah oui ?
Oui.
Kudik.
Kubrick. Ah. Kadik. Kubrick. Ah. Kubrick. Kadik. Kadik. Kubrick.
Donc là, tu Kadik. Parles de Next. Hein.
Next, voilà.
D'accord.
Alors,
adaptation donc très libre d'une nouvelle, très libre, il faut le dire, de Kadik, toujours datée de 1954, intitulée L'Homme Doré. On y retrouve également de nombreuses références à Stanley
Kubrick.
J'aime quand il me répète. Ce qui est bien avec Hugo, c'est que
j'ai l'impression d'avoir un écho avec moi. En fait, tu t'appelles pas Hugo, tu t'appelles
Écho.
Écho. Écho.
Le héros est attaché à une chaise, les yeux écartelés, afin de visionner une scène de violence. On aperçoit rapidement un scientifique lui mettant des gouttes, comme dans...
Eh ben, Orange Mécanique.
Bien. À plusieurs reprises, le héros implore la possibilité du libre-arbitre, encore, de faire le bien ou le mal selon son choix, thème récurrent chez...
Philippe Kadik.
Donc,
Mais non, Kadik.
Donc, on attaque. Chris Johnson.
Nicolas Cage.
Bravo. Est un prestidigitateur qui, sous le pseudonyme de Frank...
Cadillac.
Bravo. Travaille dans une boîte...
Miteuse de Las Vegas.
Bravo. Pour arrondir ses fins de mois, il va également jouer dans les casinos de la ville où il n'affronte que la banque et jamais les autres joueurs. Il est en effet un tricheur qui possède le don de voir l'avenir 2 minutes à l'avance et de gagner ainsi à chaque coup. Donc une vision trouble, toutefois Chris, celle d'une belle jeune femme.
Jessica Biel.
Mais non, c'est pas Biel, c'est Biel.
Jessica Biel.
Biel, non, ça c'est dans les moteurs, ça. Il mélange tout.
Il a coulé, il a coulé.
Il a coulé. Bon, laissez tomber. Qui lui apparaît bien au-delà des 2 minutes habituelles. Par ailleurs, le SBI.
La fausse bonne idée ?
Oui, c'est ça. Ou fausse blonde infiltrée. Grand film aussi. Non, je ne vous conseille pas.
Clara Morgan ?
Par ailleurs, le FBI, qui a repéré les dons particuliers de Chris, souhaite s'assurer sa collaboration pour traquer une équipe de terroristes ayant pour but de faire exploser une bombe atomique en Californie.
Non, sans blague, ça me rappelle quelque chose. Ça.
Heureusement que ça arrive en Californie, ces trucs-là. Donc, l'agent Carrie Ferris, Julianne Moore, décide donc de contacter Chris pour le convaincre de travailler avec lui.
Bon, moi, je ne sais pas. Après, c'est vrai que c'est peut-être que c'est itinérant à... Itinérant.
Ah, ça n'a rien à voir.
Itinérant, oui. C'est pas itinériste, hein, rien à voir.
Pas content ! Pas content ! Pas content !
T'as dit comment ?
Pas content ! Pas content !
Pas content !
Pas content !
Qui est le responsable ? Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi ?
D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itinéris.
J'écoute.
Vous avez de nouveaux messages.
Itinérant au film de Nicolas Cage, mais bon, après, il casse pas quatre pattes à un canard, celui-là.
Côté... Un canard à quatre pattes ?
Oui, c'est vrai. Bah, Tchernobyl, oui. Ah, oui. Bah oui, mais on n'a pas les mêmes...
valeurs.
Voilà, tout à fait, comme dirait...
Itinérer, ça a raison de ne pas se laisser faire.
Non, moi, ce n'est pas un film que je retiendrai. On peut le voir, mais voilà, ce n'est pas à garder dans ta cinémathèque, quoi.
D'accord, donc maintenant, nous allons parler de L'Agence.
Avec Matt Damon et Emily Blunt.
Et copine à Gwen.
Ouais, tout à fait.
Donc, c'est un film de science-fiction américain écrit, réalisé et produit. La raison, comme ça, il se fait plus d'argent. Par George Nolfi. Et pas Wolfi, comme on peut voir. Ouais. D'accord, d'après la nouvelle Rajustement de Kadic, mettant en scène Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie.
Oui.
J'adore. Non, mais... Distribué par Universal Pictures, la sortie de ce film a été prévue le 23 mars 2011. En France.
Donc, issu d'un quartier populaire et réputé pour sa spontanéité, comme nous autres, David Norris,
le frère à Chuck.
Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
Voilà, c'est ça. Et Aaron aussi, hein.
Oui, oui.
Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Et malgré son jeune âge, favori aux élections sénatoriales de...
Ouais.
New York! Malheureusement, son excentricité lors d'une soirée d'anciens élèves lui coûtera sa victoire. Oui, il a un petit peu punché un peu de ses camarades, mais de là...
C'était ça,
oui. Alors qu'il s'apprête à prononcer son discours, il rencontre une jeune femme, dans les chiottes d'ailleurs, avec qui il échange quelques mots et un baiser.
Furtif.
Avant qu'elle s'enfuit précipitamment. Mais le hasard fait qu'il recroise cette femme, Élise, dans un bus qu'il n'aurait pas dû prendre. En
ça
effet.
Ça m'arrive jamais, moi. Ça.
Non, moi non plus.
On n'a pas de bus, a dit aussi.
Ouais, aussi, c'est vrai. En effet, selon un plan mystérieux, l'agence avait pour mission de l'en empêcher.
C'est
des gens qui, bon, un peu comme les agents du FBI qui sont toujours un peu habillés avec des chapeaux. Non, parce qu'ils ont moins de costumes en noir et blanc. Mais voilà, et en fait, il y a un type qui est chargé de surveiller ce fameux David Norris. Et en fait, à un moment d'inattention, il fait qu'il prend ce fameux bus et que là, toute l'histoire change, quoi. Et on va venir...
C'était pas prévu, alors.
C'était pas prévu. Parce qu'en fait, cette agence dirige toute l'humanité. Tu sais, ces fameux trucs où
il n'y a pas de place au hasard, quoi.
Non, c'est ça. Parce qu'en fait, le fameux truc où tu tombes tes clés tout, et ça te fait perdre les précieuses minutes qui font que tu ne rencontreras pas cette personne dans la rue, quoi. Et tout est agencé comme ça. Et évidemment, David et Élise vont essayer de se rechercher l'un l'autre. Et même l'agence va exceptionnellement se montrer à lui. Parce que d'habitude, il reste toujours caché. Mmh. Et ils effacent la mémoire. Et là, il va se montrer en lui disant, gars, soit tu renonces à elle, soit nous, on te
découpe.
Non, pas en découpe, on te fait une lobotomie et après tu finiras en légumes, quoi.
D'accord.
Et malgré ça, eh ben, il va quand même...
C'est beau l'amour.
Ouais, c'est ça. Ben, moi, en fait, la première fois que je l'ai vu ce film, je t'avouerais que je me suis attendu effectivement à une histoire d'amour. Et plus on avançait dans l'histoire, plus tu dis « Ouh, c'est quoi cette histoire ?» Et c'est vrai que, bon, après...
Tu peux refaire le loup ?
Ouh, c'était moins le style, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Après, c'est vrai que ça... Science-fiction, histoire d'amour, là, effectivement...
Là, il y a la question.
Bah oui, parce que c'est dans un contexte, je dirais, contemporain, quoi. C'est juste qu'effectivement, eux, ils ont des... Parce qu'il y a le fameux passage des portes.
D'accord.
C'est-à-dire que tu ouvres une porte, toi, tu rentres dans un immeuble ou sur une rue et le mec qui arrive près de toi, ben, lui, il rentre dans la pièce comme c'est normal, quoi.
D'accord. Donc, le scénariste George Nolfi avait écrit le scénario en s'inspirant d'une nouvelle de Kadic écrite en 1953, dont le personnage principal est un agent d'assurance, qui n'a rien à voir.
Oui.
Le scénariste en a fait un homme politique, car un politicien permet d'inclure une dimension supplémentaire, d'en faire un personnage dont les choix affectent les autres. Donc, aux États-Unis, il avait été, sous la clause, je ne sais plus comment, là, donc interdit au moins de 13 ans, parce qu'il y avait des écarts de langage. Verbaux et des scènes dénudées et violentes. Porte quoi quand on voit la violence aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Même dans les cinémas, mais avec les spectateurs plutôt que ce qu'il y a sur l'écran. Philip K. Dick n'a pas fait que Je veux dire, enfin, du moins, on s'est pas que inspiré de ses œuvres, quoi. Puisque la trame de Truman Show avec Jim Carrey de Peter Weir en 1998 est largement inspirée du roman Le Temps des Articulés.
Ah bon?
Voilà. Mmh, tout à fait. Et parmi les admirateurs de Dick, on peut trouver le réalisateur David Cronenberg, parce que sa rencontre avec l'auteur, entre guillemets, commence en 1984. Dino De Laurentiis, qui a produit son film Dead Zone, du roman éponyme de Stephen King, lui fait parvenir un scénario. Mécontent de son résultat, il décide de le réécrire, mais finalement, il se retire du projet. C'est le fameux Souvenir à vendre, donc le fameux Total Recall. En 1999, Cronenberg sort son film Existence, qu'il considère comme étant son film dickien. Moi, ce que je voulais aussi rajouter, puisqu'on en est là, c'est le fameux mot qui a été un peu barbare de dystopie, donc, ou contre-utopie, et qui est un récit de fiction.
Attention, c'est la minute d'apostrophe.
Voilà. Et donc, bon, on en a déjà fait un peu. Ou contre-utopie est un récit de fiction d'une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur et contre laquelle l'auteur met en garde le lecteur. Et ça, on en a vu dans le fameux Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, La planète des singes de Pierre Bouille et The Hunger Games de Susan Collins. Tous ces romans ont donné des films, le fameux Metropolis de Fritz Lang, Alphaville de Godard, Fahrenheit 451 de François Truffaut, Orange mécanique de Stanley Kubrick, THX 1138 de George Lucas, La conquête de la planète des singes de Thomson, Le soleil vert, notre fameux soleil vert, ouais. Blade Runner 84, La servante écarlate, où une société impose aux femmes des rôles prédéfinis, de Volker Schoendoeffer, Brazil de Terry Gilliam, Running Man, qui est un roman de Stephen King, donc de Paul Michael Glaser,
Le prix du danger,
fameux Paul Michael Glaser, Starsky. Donc on a Total Recall, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, Planète hurlante, Bienvenue à Gattaca, Dark City, là aussi superbe ce film d'Alex Proya, celui de David Cronenberg, Existence, Bataille Royale de Kinji Fukasaku, hein, ça aussi, et les frères Wachowski, The Matrix, Equilibrium de Kurt Vemer, iRobot d'Alex Proya, The Island de Michael Bay, Iron Flux de Karine Kuzema.
Il est bien aussi.
Silent Tales de Richard Kelly. Ultraviolet, dont j'avais parlé, le truc des vampires. Kurt Wimmer. V comme Vendetta. Fameux V comme Vendetta. Les Fils de l'Homme. Celui-là, il est superbe, Le Fils de l'Homme, avec Julian Moore. Et d'Alfonso Cuarón. Idiocratie, alors celui-là aussi, en traitement d'humour. Hein. Voilà, de Mike Judge. Babylon AD de Mathieu Kassovitz. Dead Race de Paul W.S. Anderson, où on utilise les prisonniers comme pilotes de course. Wall-E, Wall-E, puisque la planète n'est qu'une poubelle. Clone, The Ultimate Games de Mark Neveldin, où une société qui utilise des prisonniers comme des avatars dans un shoot them up géant. Time Out, celui-là aussi il est excellent, d'Andrew Nichols, une société où on cesse de vieillir à 25 ans,
où
le temps remplace l'argent et où les riches vivent éternellement et les pauvres se battent au jour le jour avec Timberlake, il est excellent celui-là. Il faut vraiment le voir. Et le fameux Hunger Games de Gary Ross en 2012. Voilà, donc tu vois tous ces films, et c'est vraiment dans la veine de Philippe K. Dick, où effectivement on montre un avenir vraiment très très sombre, où on croit qu'on est heureux et on ne l'est pas. Et c'est vrai que malgré ses déboires sentimentaux, malgré ses problèmes familiaux suite au décès de sa sœur, suite à toute cette absorption de drogue, de médicaments, d'amphétamine, je pense que quand même quelque part Philippe K. Dick avait quand même une vision certes très noir, très glauque de ses contemporains, quitte à être paranoïaque, schizophrène, dans la théorie du complot, mais ce que je pense, hélas, un petit peu le cas de pas mal de nos contemporains. Donc voilà. Et moi je trouve que ça a été un très bon écrivain, certes pas au niveau littéraire, mais il a apporté, je pense, effectivement, à la science-fiction quelque chose de vraiment très très important.
C'était un pilier,
il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que lui, il a quand même laissé sa trace, parce que c'est vrai.
Et merci au réalisateur d'avoir superment transcrit.
Tout à fait.
En général, c'est quand même, tous les films sont bons.
Ouais, tout à fait. Comme on avait dit, effectivement, il a de très très bonnes idées, et je pense que ça a été l'avantage. C'est vrai que quand on voit des œuvres comme Frank Herbert, c'est 10 000 fois plus difficile à mettre un Dune en place qu'un Blade Runner. Donc on va laisser là pour l'instant Philippe K. Dick à sa séance friction. Et nous, on va se faire une séance pestel. Voilà. Alors, Hugo.
Tu es allé voir Faust alors?
Non, je ne suis pas allé voir. Je suis allé voir
Rebel
et il est extraordinaire. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. L'ours, la légende, l'histoire, les dessins. Bon, les chansons un peu moins parce que les trois petits frères aussi. Pas des petits cochons, mais les trois petits oursons. Mais c'est vrai que par contre, moi, c'est le seul truc qui m'a gêné. Mais c'est un peu itinérant au Pixar. C'est
chansons.
Les chansons. Ah. Là,
c'est
un peu cucu, mais franchement, j'ai adoré les images, la petite princesse, et surtout quand elle est toute petite avec ses cheveux en bataille. Et ben, je veux dire que effectivement, on voit que les séries d'animation ont vachement avancé parce que je me rappelle d'une époque où les cheveux c'était un gros problème des dessinateurs. Et ben là, maintenant, ils sont au top. Et franchement, et moi, je pense que celui-là, et ben, pour les enfants et pour les plus grands, il est extra. Voilà.
Alors, cette semaine au Pestol. Alors, le tigre et les animaux de la forêt.
Alors là, c'est un film vraiment pour les tout petits.
Les 3-4 ans, oui. Il est sorti donc le 16 février 2011.
Et il est de Das Riduz et de Janis Simea.
C'est pourtant pas dur à dire, quoi. Simea Mami. C'est un programme de 4 courts-métrages d'animation laiton, donc sans dialogue, par la réalisatrice du Bal des Lucioles et le réalisateur de L'Ours arrive, de Souris Mon Ami, Le Bonheur des cochons et la Chasse et le Tigre.
Voilà, quatre petites histoires dont Souris Mon Ami et Le Bonheur des cochons sont un peu la suite.
D'accord.
Mais voilà, c'est vrai que c'est assez gentillé, quoi.
D'accord.
Bah, je dis pas ça méchamment. Hein.
Voilà. Donc là, cette semaine, il y a Batman. Donc le loupez pas, il passe
Dark
pas
Knight
beaucoup.
Rise, voilà, c'est ça. De Christopher Nolan avec Christian Bale, Anna Hathaway, Tom Hardy et Marion Cotillard. En fait, c'est un peu l'équipe d'Inception qui débarque à Gotham City.
D'accord. Et il y a aussi donc Lawrence Anyways.
Celui-là, il est extra.
De Xavier
Dolan.
C'est bien.
Dolan, parce que c'est un film canadien. Même si c'est marqué France, ça se passe tout au Canada. Là.
Donc avec Melville Poupeau,
Suzanne Clément et Nathalie Boy.
Il a eu le prix d'interprétation féminine d'ailleurs. Cannes 2012. Donc il est sorti le 18 juillet 2012. Mmh. Lawrence Anyways, c'est l'histoire d'un amour impossible.
Mmh.
Le jour de son 30e à Nive, Lawrence, qui est très amoureuse de Fred, révèle à celui-ci après...
À celle-ci.
Ah oui, pardon, à celle-ci, celui-ci. À celle-ci,
oui.
Son désir de devenir une femme.
Voilà, c'est ça. Oui.
On préfère ça à n'importe quel grand film de la maturité autoproclamée. Donc c'est très long, mais très beau. Sa performance en transsexuel pourrait bien lui valoir une nomination au César.
En fait, c'est un Pedro Almodovar, mais en côté plus tragique, quoi. Quand Laurence décide d'être une femme, en même temps et de façon paradoxal, il tente désespérément de sauver sa relation avec Fred, donc Frédéric, sa fiancée, qui accepte fort mal cette décision. Et on la comprend. Et c'est surtout sa cascade de désagréments qu'elle suscite, parce qu'à un moment, elle le dit à une dame.
T'as-tu déjà acheté une perruque pour ton chum, toi? T'as-tu déjà eu peur quand tu sors de chez vous qu'il se fasse tabasser dans la rue et qu'il t'en revienne pas en un morceau?
Effectivement, à un moment, il se fait tabasser parce que lui, il travaille, je crois, à une école. Et à un moment, il arrive habillé en femme, quoi.
J'ai choisi de descendre la pente dans la peau d'une femme.
Toutes les femmes la descendent.
Après l'avoir montée.
Et certains de ses collègues sont pour, mais au bout d'un moment, ça le fait plus, quoi. Et il y a toute cette différence qui a lieu, quoi. Effectivement, dans le regard des autres, et puis surtout dans les yeux de Frédéric, quoi.
Mais ça veut dire, en fait, le titre veut dire Laurence de toute façon en français, c'est ça? Anyways.
Ouais, de toute façon, oui, parce que lui, il a décidé d'être une femme et que malgré tout. À un moment, elle le dit d'ailleurs, Fred. Mais...
C'est toi qui as voulu ça, Laurence. On l'a fait, on a essayé, mais tu peux pas tout avoir.
Tu peux pas être une femme et garder ta femme, quoi. À un moment, il y a un choix à faire, quoi. Et pour lui, c'est très dur, quoi. Donc, et puis il y a le film
El Puesto.
Si.
Le marin vit seul au milieu des étendues infinies de la Patagonie argentine, dans une cabane. Quelques visites viennent parfois briser la solitude de cette âpre vie, que c'est la rencontre d'un poulain, Amélie.
Ah oui,
Oui. Et qui donne à ce conte sauvage une dimension humaine. Un western sans coup de feu ni bagarre. Ça doit être très beau les paysages.
Oui, tout à fait.
La Patagonie, ça déchire.
Ah non, mais la Patagonie, c'est très beau. Et surtout que, en fait, le dimanche 2 septembre à 20h30, il y aura la présence du réalisateur. Donc il y aura aussi, juste avant, à partir de 19h30, un accueil, entre guillemets, apéritif. Alors peut-être des spécialités de Patagonie, sait-on jamais.
Des steaks de cheval.
Voilà, tout à fait. Et forcément, après le film, il y aura des échanges avec le réalisateur. Je pense que ce serait bien, effectivement, qu'on puisse, puisque ça arrive assez rarement, qu'on puisse échanger avec le réalisateur sur sa façon de travailler surtout sa façon de...
Ridley Scott veut pas Mirady.
Non, du tout, non.
Et moyennant 100 000 euros.
Voilà, et puis Cameron non plus. Christopher
Cameron
Nolan. Mais non, ah. James Cameron. Ah. Et puis aussi, j'avais demandé aussi, comment ça s'appelle, à Cronenberg, il n'a pas voulu.
Oui. Donc, il n'y a que Cronenberg qui est venu.
C'est vrai. Mais quelle descente, lui, alors. Oui. Quelle descente.
Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La semaine prochaine, nous allons parler d'autre chose. Nous allons revenir au monde du cheval, puisque nous allons parler des grands classiques du western.
Oh, génial.
Bon, ben, au revoir et bonne semaine. Passez à affûter vos vendangettes, c'est bientôt l'heure.
Allez, et ben ciao ciao à tous et merci de votre écoute et bien à bientôt sur RDIWA 107.5 et www.rdiwa.fr pour ceux qui veulent voir les pages internet et consorts.
Il y a une tata à gagner.
Voilà, il y a une tata à gagner, tout à fait, tout en boîte d'allumettes là, parce que j'ai organisé un dîner avec un type. Et d'ailleurs, tu fais quoi ce soir, Hugo?